14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé complète et efficace où que vous soyez. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Plus de 6 300 000 personnes sont atteintes de la maladie de Parkinson dans le monde, ce qui hisse cette affection au deuxième rang des pathologies neurodégénératives derrière la maladie d'Alzheimer. Une maladie évolutive qui ne se guérit pas à l'heure actuelle, mais son processus peut dans certains cas être freiné, d'où l'importance d'un diagnostic précoce pour ralentir au plus tôt la perte de motricité, diminuer l'anxiété, le stress et à terme limiter le risque de dépendance. L'incidence de la maladie de Parkinson augmente avec le vieillissement de la population et pourtant elle véhicule encore aujourd'hui beaucoup d'idées fausses sur l'âge des patients au moment du diagnostic, a priori au sujet de ses symptômes, comme les tremblements par exemple, qui lui sont systématiquement associés, alors que les manifestations de la maladie sont variables d'un sujet à l'autre, des préjugés qui amplifient donc le choc à l'annonce du diagnostic, des approximations susceptibles de fausser la perception que peut en avoir l'entourage des personnes affectées, d'où l'importance de sensibiliser sur cette maladie pour limiter la stigmatisation et surtout optimiser sa prise en charge. Parkinson, on en parle avec vous, professeur Philippe Damier, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes neurologue au CHU de Nantes, expert de la maladie de Parkinson et maladie apparentée. On vous retrouve en direct de Nantes, dans les studios de France Bleu, Loire-Océan. Et avec nous en studio, Jean-Louis Duflou, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes l'auteur de 51, publié aux éditions Librinova, roman inspiré de votre expérience depuis que vous vous savez atteint de la maladie de Parkinson. Nous retrouverons aussi en ligne du Mali tout à l'heure le professeur Youssoufa Maïga, chef de service de neurologie au CHU Gabriel Touré à Bamako. Et en fin d'émission, nous retrouvons la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe nationale de judo. Et bien sûr, notre numéro pour témoigner, poser toutes vos questions à l'équipe de Priorité Santé, c'est le 33 84 22 75 75.
RFI.
Professeur Philippe Damier, pour beaucoup, Parkinson est une maladie du grand âge et pourtant, ce n'est pas tout à fait exact.
Oui, tout à fait. En fait, c'est une maladie qui, une fois sur deux, commence avant 60-65 ans. Donc, beaucoup de gens vont commencer la maladie à la cinquantaine, à la soixantaine. Donc, c'est des âges où les gens sont encore très actifs. Pour certains, travaillent, même pour la majorité, ont une vie de famille, une vie sociale active.
Et on va tenter de détailler le fonctionnement, les symptômes avec vous. Une maladie complexe, on va le voir, professeur Philippe Damier. Mais d'abord, essayez de démentir certains a priori, certaines de ces idées fausses. Quels sont, justement, selon vous, les préjugés les plus dommageables au sujet de la maladie de Parkinson ?
Il y a celui que vous venez de citer, c'est-à-dire une maladie du sujet âgé. Alors, ça peut débuter tard, mais ça peut aussi débuter plus tôt. Et c'est vrai que quand on pose le diagnostic chez quelqu'un qui a 40, 45 ans, 50 ans, c'est toujours un choc parce que dans sa tête, il pensait que c'était une maladie de sujet âgé. Donc ça, c'est un des premiers préjugés un peu forts. Le deuxième, c'est qu'on associe souvent cette maladie à tremblement. Alors, bien sûr, il peut y avoir un tremblement dans un certain nombre de cas, mais il y a des patients qui tremblent pas du tout. En particulier au moment du diagnostic, et des tremblements qui ne sont pas liés à une maladie de Parkinson, mais à d'autres maladies neurologiques. Donc Parkinson n'est pas égal à tremblement. Enfin, peut-être dernier élément de préjugé, c'est qu'on dit que c'est une maladie essentiellement motrice. Or, il y a toute une symptomatologie non motrice qui est fréquente, importante, qui peut être très invalidante chez les patients. Je pense à la fatigue, à l'anxiété que vous avez évoquée, aux troubles du sommeil, à la douleur qui est aussi quelque chose de très fréquente.
Et comment justement ces manifestations s'expliquent de façon physiologique ?
Alors, Le cœur des lésions, du dysfonctionnement cérébral qui explique l'essentiel des symptômes, c'est l'atteinte d'une toute petite population de cellules nerveuses. Le cerveau, c'est à peu près 86 milliards de cellules nerveuses et c'est une population de 500 000 cellules. Donc c'est ridicule, mais ces cellules, elles ont une propriété particulière. Elles fabriquent un produit chimique présent dans le cerveau qui s'appelle la dopamine et qui est un produit très important, entre autres pour effectuer des mouvements de façon fluide et efficace. Et donc c'est le manque de dopamine cérébrale qui va expliquer l'essentiel des symptômes qu'on observe dans cette maladie.
Alors 51, c'est le titre de votre livre, Jean-Louis Duflou, 51, l'âge auquel vous avez été diagnostiqué et qui vient justement illustrer ce dont on vient de parler avec le professeur Damier.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le lendemain de mon 51e anniversaire, j'ai eu le diagnostic de la maladie de Parkinson, sachant que je cherchais à savoir ce que j'avais depuis à peu près 2 ans.
Qu'est-ce qui vous inquiétait dans votre état de santé ?
Alors, il y a eu deux facteurs très différents. Il y a eu un facteur qui était un changement d'humeur. J'étais d'un naturel plutôt optimiste, de bonne humeur, j'allais de l'avant. Et puis, mon tempérament a changé, j'étais... plus triste, bref, c'est ma femme en fait qui a remarqué ce changement d'humeur. Donc ça, c'était un facteur que j'ai attribué à la crise de la cinquantaine, mais c'était pas ça. Et le deuxième facteur, c'était un facteur physique, c'est-à-dire que j'avais mal à l'épaule droite, et comme je jouais au tennis, je pensais que c'était simplement que j'avais trop forcé sur mon service, et c'était pas ça non plus.
Parce que pour vous, à la cinquantaine, Jean-Louis Duflou, on ne pense pas à Parkinson. D'ailleurs, en général, quand on annonce une maladie chronique de ce type, personne n'anticipe cette annonce. Justement, quand le médecin vous dit de quoi il s'agit, pour vous, c'est quoi ? C'est un saut dans l'inconnu ou c'est un traumatisme ?
Oui, c'est les deux. Alors d'autant plus que moi j'avais eu un grand-père qui avait eu un Parkinson que j'avais connu avec un Parkinson vers 75-78 ans et que jusqu'au dernier moment, j'ai jamais imaginé que j'avais un Parkinson. Donc pour moi, effectivement, c'était une maladie de vieux.
Alors votre livre, vous avez choisi de l'écrire à la troisième personne. On peut parler de roman, on peut parler pas vraiment de fiction tout de même, parce que beaucoup de personnages, on le sent, c'est votre entourage, c'est votre milieu, c'est aussi malgré tout votre état d'esprit. Vous choisissez justement cette troisième personne un peu facétieuse, mais qui dit quand même, j'ai l'impression d'héberger un étranger, un voyageur de passage. Hélas, il n'est pas de passage, il faut se faire à l'idée d'un mal chronique, c'est-à-dire incurable.
Oui, c'est ça la grande révolution, c'est-à-dire que quand on connaît le diagnostic, je crois que c'est la chose qui inquiète le plus, c'est cette idée de maladie chronique. Et cette maladie, on sait qu'aujourd'hui, pour l'instant, on n'en connaît pas les causes, donc on peut atténuer les symptômes, mais on ne peut pas la guérir. Et donc, il faut s'habituer à ça. Je pense que c'est ça le grand saut.
Professeur Philippe Damier, maladie chronique et pathologie dégénérative. Vous avez parlé tout à l'heure des symptômes. Et certains qui peuvent s'accentuer, d'autres qui peuvent s'ajouter. Ça a quelque chose quand même de très inquiétant.
Oui, quelque part, oui. Donc on est effectivement sur une maladie chronique. Alors il y a plusieurs éléments là-dessus. Déjà, quand les premiers symptômes apparaissent, donc 2 ans avant qu'on pose le diagnostic chez Jean-Louis, la maladie était déjà là depuis au moins 5 ans. Donc ce qui veut dire qu'il y a un très lent processus et que pendant de nombreuses années, le cerveau arrive à fonctionner normalement, puisqu'il n'y a aucun signe visible, alors qu'il y a déjà un manque de dopamine. Et puis une fois qu'on pose le diagnostic, effectivement, la maladie va continuer à avancer, à progresser, à des rythmes extrêmement variables d'un patient à l'autre. Donc ça, je crois que c'est un grand message qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a vraiment autant de maladies de Parkinson que de patients, avec des formes qui sont agressives, avec des formes qui sont moins. Donc chaque cas est vraiment particulier. Mais effectivement, quoi qu'on fasse, cette maladie va être là, va avoir tendance à progresser. Donc il va falloir vivre avec et il n'y a pas le choix. Même si, fort heureusement, il y a des possibilités de traitement qui sont là. Mais aujourd'hui, on ne peut pas la guérir comme on guérit une simple angine.
Le professeur Philippe Damier, sans refaire l'histoire à l'envers, 2 ans déjà que la maladie était présente, est-ce que ça veut dire qu'on aurait pu la détecter avant ?
Alors 2 ans qu'il avait remarqué des premiers symptômes, mais la maladie, elle était présente même probablement 5-8 ans avant, hein, et peut-être même plus.
On n'a pas d'indicateur chimique, par exemple, tout ça n'existe pas, de l'imagerie cérébrale pour le savoir.
Alors, dans certaines études, on peut mettre en évidence des choses un peu plus précocement que des signes n'apparaissent. Aujourd'hui, ça n'a pas d'impact puisqu'il n'y aurait pas de traitement, même si 5 ans avant les premiers symptômes, on avait fait le diagnostic chez Jean-Louis, on n'aurait pas proposé de traitement particulier. Alors, c'est peut-être des choses qui changeront. On peut imaginer que dans le futur, on puisse détecter des éléments de prédisposition génétique et du coup, dans des populations particulières, faire du diagnostic précoce.
Alors, donc, tout à l'heure...
Ça, des choses qui arriveront, oui.
Excusez-moi, tout à l'heure, dans les symptômes, vous avez cité toute une série de signes qui peuvent alerter et éventuellement contribuer à anticiper le diagnostic. Pour ce qui est du traitement des douleurs, professeur Philippe Damier, comment les décrire? Est-ce qu'elles sont lancinantes? Est-ce qu'elles sont par à-coups? Est-ce qu'elles sont permanentes?
Alors, il peut tout y avoir. C'est extrêmement variable d'un patient à l'autre. La maladie, déjà, modifie le seuil de perception de la douleur. Donc, une information un peu douloureuse sera ressentie comme plus douloureuse par le patient. Dès lors qu'il va y avoir un problème rhumatologique, une tendinite qui peut faire mal, elle va être exacerbée. Mais il y a des douleurs qu'on appelle neurogènes, donc vraiment liées à la maladie, qui peuvent être présentes aussi, qui souvent vont... Ce qui va être caractéristique dans la maladie de Parkinson, c'est que souvent elles vont fluctuer en fonction des temps d'efficacité du traitement. Hein, puisqu'on n'a pas encore abordé le traitement, mais on a des traitements efficaces, mais des traitements dont l'efficacité varie dans la journée. Et dans des phases où le traitement est un peu moins efficace, c'est là que la douleur peut s'exacerber. Donc le traitement de la douleur va consister déjà en première intention à corriger le mieux possible le déficit en dopamine, donc à faire ce qu'on appelle lisser le traitement en associant des médicaments. Et puis, si les douleurs persistent malgré ça, là c'est plus difficile. On n'a pas encore de schéma thérapeutique standardisé pour la douleur de la maladie de Parkinson. Et preuve en est qu'actuellement, on a une étude en France qui est coordonnée par nos collègues de Toulouse qui teste médicaments antidouleurs dans la maladie de Parkinson.
Alors, on le souligne, hein, le caractère singulier, variable des atteintes. Chez vous, Jean-Louis Duflou, vous avez dit peut-être des troubles de l'humeur, cette douleur à l'épaule. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui vous ont alerté? Et depuis justement ce diagnostic, est-ce qu'il y a d'autres signes qui sont apparus chez vous?
Il y a... Dans mon cas, par exemple, la désorganisation du cycle veille-sommeil est assez marquée. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui ne facilite pas la vie quotidienne.
Et qui amplifie la fatigue dont on parlait tout à l'heure.
Et qui amplifie la fatigue, voilà. Donc si je passe une bonne nuit, je vais être évidemment beaucoup mieux au niveau des symptômes moteurs dans la journée que si je passe une mauvaise nuit.
Quand votre entourage, votre femme vous alerte sur votre, par exemple, irritabilité, est-ce que par la suite, justement, vous avez réussi à rétablir, justement, ces sautes d'humeur, ou je ne sais pas si c'était plus sur le long terme, est-ce que c'est quelque chose que vous avez réussi à prendre en charge?
Oui, on le rétablit selon les périodes, mais cependant, de temps en temps, et notamment quand le soir arrive, la nuit arrive, on peut avoir un espèce de... Comme s'il y avait un petit déclenchement chimique qui faisait que d'un seul coup on passe de la bonne humeur à la mauvaise humeur, mais à une humeur un petit peu anxieuse. Voilà, l'anxiété, c'est de l'anxiété qui vient. Et ça se déclenche presque en quelques secondes, quoi, ou en quelques minutes.
Vous avez malgré tout trouvé la force, l'énergie pour écrire ce livre, justement. À côté de la maladie, cette énergie, sans aller jusqu'à parler d'inspiration, pourquoi mettre toute cette expérience en un condensé et encore une fois avec ce ton un petit peu ironique?
Alors, déjà l'avantage de ne pas dormir, c'est qu'on peut commencer à travailler tôt et puis on n'est pas dérangé. Donc là, effectivement, ça m'a aidé à écrire mon livre. Je l'ai écrit au départ pour moi et ensuite je me suis dit que ça serait bien que les gens qui vivent autour de ceux qui ont cette maladie comprennent un peu ce qui se passe dans la tête de celui qui a la maladie. Donc c'est à mon avis utile à la fois pour ceux qui sont mes sœurs et frères de pathologie et pour ceux qui les entourent.
Malgré la grande pudeur, justement à travers l'humour, l'ironie, parce qu'on ressent les choses, on les perçoit, mais vous ne dites pas les choses à plat, en tout cas vous ne vous plaignez jamais.
Non, c'est-à-dire que c'est une maladie qui a déjà une mauvaise image. Alors je me dis que si on se plaint et qu'on donne un caractère noir à cette maladie, c'est effectivement... Ça amplifie finalement le phénomène. Donc j'ai choisi effectivement de prendre du recul par rapport à ça parce que je pense que ça dessert la maladie de mettre trop de pathos autour, voilà, trop de mélo.
Alors on va se retrouver dans quelques instants. On va tout de suite donner la parole à une auditrice de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et cette auditrice, elle nous appelle du Gabon, de Libreville, Liliane Audrey. Bonjour Liliane Audrey.
Bonjour.
On vous écoute.
Moi, j'ai mon papa qui est atteint de la maladie de Parkinson. Cela fait déjà plus de 5 ans. Il a 57 ans. Donc, je me demandais déjà qu'est-ce que nous, son entourage, on pouvait faire de façon pratique pour l'aider. Mais aussi, si ça se soignait, parce que ici, c'est une maladie qui n'est pas très courante. Donc, il y a peu d'informations dessus. Et s'il y avait aussi des méthodes naturelles pour les traiter.
Aujourd'hui, Liliane Audrey, est-ce que votre père est pris en charge et comment ?
Bon, ça, je ne dirais pas qu'il est pris en charge. Hein. C'est vraiment compliqué. Il a un traitement ici, mais on ne voit pas l'évolution. On ne voit pas d'évolution.
Vous voyez pas d'évolution, vous voyez pas d'amélioration. Est-ce qu'il se plaint, par exemple, de douleur ?
Oui, il a beaucoup mal. Il a maintenant du mal à tenir les objets. Que ce soit une simple cuillère ou même un téléphone, il n'arrive pas à le tenir. On le fait manger. En fait, tout est dirigé. On fait tout pour lui, en fait. C'est vraiment difficile pour lui. Il a vraiment mal.
Est-ce que vous avez connaissance de la nature de ce traitement? Par exemple, le nom du produit qu'il prend?
Hélas, non. Je n'ai pas ça en tête. Bon, je ne suis pas la personne qui est souvent près de lui. Donc.
Et est-ce qu'il se rend souvent justement chez le médecin? Est-ce qu'il a fréquemment des consultations pour suivre l'évolution de sa maladie?
Non, pas fréquemment. Il est allé peut-être 2 à 3 fois et puis c'est tout. Et c'est juste la même ordonnance que l'on renouvelle à chaque fois.
D'accord, pas de traitement évolutif. Une dernière question, Liliane Audrey, avant de donner la parole au professeur Philippe Damier. Comment se sent votre papa sur le plan moral?
Ah, il est vraiment abattu. Hein. À chaque fois, il se dit, bon, je n'arriverai pas le mois prochain, je vais sûrement mourir le mois prochain ou l'année prochaine. Il est vraiment négatif.
Et est-ce que vous savez justement si sur ce symptôme de dépression, il y a une prise en charge ou on traite uniquement sa maladie de Parkinson?
Non, uniquement la maladie. Il n'y a pas de prise en charge sur le plan émotionnel. Et tout, non, c'est uniquement la maladie.
Professeur Philippe Damier, qu'est-ce que vous pouvez dire à Liliane Audrey au sujet de la situation de son père?
Alors c'est toujours comme difficile à distance.
Bien évidemment.
D'abord, il faut savoir que dans les choses qui donnent des signes qui ressemblent à ceux de la maladie de Parkinson, le plus souvent c'est la maladie de Parkinson, mais il y a d'autres maladies plus rares qui peuvent aussi donner des signes semblables et qui sont plus difficiles à traiter. Alors ensuite, dans la maladie de Parkinson, il y a effectivement des traitements efficaces qui sont en particulier à base de DOPA que doit recevoir le papa de Liliane certainement. Alors est-ce que les doses sont suffisantes? Est-ce qu'ils sont administrés à des temps satisfaisants? Tout ça serait à voir et probablement avoir l'œil d'un spécialiste sur le traitement pourrait être utile. Alors c'est pas facile. Hein. Moi qui connais bien le Mali, on aura peut-être tout à l'heure mon collègue Maïga au téléphone.
Absolument.
Il y a encore très peu de neurologues. Et ces maladies chroniques neurologiques sont de plus en plus fréquentes avec le vieillissement de la population dans ces pays d'Afrique équatoriale aussi. Et puis la place de la famille est très importante, hein, c'est-à-dire de tout le soutien qu'elle apporte actuellement, mais d'aider le patient pour avoir une activité physique régulière, pour garder du lien social. Tout ça est vraiment très important dans la maladie, autant que le traitement médicamenteux.
On entend en tout cas une forme de détresse, hein, parce que il se sent mal, il s'interroge sur son avenir au quotidien. Justement, sur ce plan de la dépression, il peut y avoir une action. Comment vous, quand vous recevez un patient qui justement a ces symptômes dépressifs, comment est-ce que vous agissez?
Mais si, il faut savoir que le fait de manquer de dopamine au niveau cérébral, et Jean-Louis l'a très bien dit tout à l'heure, entraîne de la dépression, change le caractère. Donc la première étape va être de corriger le déficit en dopamine. Et dans un certain nombre de cas, ça va suffire à améliorer la symptomatologie dépressive. Après, voilà, quand il y a l'annonce du diagnostic, quand il y a les conséquences de la maladie, ça peut aussi entraîner une dépression authentique, réactionnelle, et on peut compléter avec des traitements antidépresseurs, avec des approches non médicamenteuses qui sont importantes, hein, de soutien par un psychologue, de travailler sur les émotions qui sont plus difficiles à contrôler dans le cas de la maladie de Parkinson. Donc c'est un ensemble d'approches, et à nouveau individualisé au cas par cas.
Liliane Audrey, voilà pour ces indications du professeur Philippe Damier. Juste cette dernière question, votre père est pris en charge par un neurologue ou par un médecin généraliste ?
Par un généraliste.
Est-ce que vous avez peut-être les moyens à Libreville de vous rapprocher d'un neurologue qui pourra peut-être avoir une approche plus adaptée à sa pathologie ?
Oui, bien sûr.
Je pense que ce serait peut-être la première chose à faire pour essayer de voir si son traitement est particulièrement adapté, peut-être pour améliorer aussi son état général. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. En tout cas, très bonne journée à vous et à votre famille à Libreville, au Gabon. On va reparler de ces tremblements, professeur Philippe Damier, qui, on peut dire, collent à la peau de la maladie de Parkinson. Pourtant, j'ai lu des chiffres, hein, seuls 30% des patients en tout cas, ne sont pas affectés par ces tremblements. Et donc, à cause justement de cette absence de tremblement, il peut y avoir un retard de diagnostic.
Oui, je crois que le témoignage, d'ailleurs, Jean-Louis, était tout à fait caractéristique. Hein, c'est les situations fréquentes qu'on rencontre, un problème rhumatologique qui traîne, une humeur qui change, qui passe pour de la dépression. En plus, on est souvent à des âges où il peut y avoir des ruptures importantes dans la vie. Et tout ça retarde le diagnostic. Les formes tremblantes sont plutôt à début plus tardif. Donc, c'est plutôt les gens qui vont débuter au-delà de 70, 75 ans où on va avoir du tremblement. Dans les formes à début autour de la cinquantaine, c'est plus de la maladresse gestuelle, plus des douleurs qui sont révélatrices que le tremblement.
Professeur Philippe Damier en ligne de Nantes, vous restez avec nous comme vous, Jean-Louis Duflou, en studio. On va se retrouver pour parler justement là plus précisément des traitements et de cette prise en charge de la maladie de Parkinson après une pause avec le chanteur américain Neil Diamond, 50 ans de carrière en janvier. Il a annoncé la fin de ses tournées. Neil Diamond est en effet atteint de la maladie de Parkinson, mais il se dit bien décidé à 77 ans à rester actif, continuer d'écrire et enregistrer d'autres chansons. Kentucky woman, she shine with her own kind of light. She look at you once in a day, that's all wrong, looks all right. And I love her. God knows I love her. Kentucky woman, she get to know you, she got to own you. Kentucky woman, well, she ain't the kind make heads turn at the drop of her name. Something inside that she's got turned you on just the same. And she loves me, God knows she loves me. Kentucky woman, she get to know you, she got to own you. Kentucky woman, I don't want much. Good Lord's earth beneath my feet, gentle touch from that one girl, and life is sweet and good. She got Neil Diamond, 1967, Kentucky Woman. Jean-Louis Duflou, c'est important pour vous justement d'être un personnage public et d'assumer, de dire « oui, j'ai la maladie de Parkinson ».
Oui, je pense que c'est très, très important. D'ailleurs, depuis que j'ai écrit mon livre, les relations que j'ai eues, notamment au plan professionnel, sont facilitées.
Justement, pourquoi ? Parce qu'il y a une explication, parce qu'on dit finalement il assume ce qu'il est et puis la vie continue.
Voilà, c'est ça, parce que avant, comme j'en parlais pas, personne n'osait m'en parler. À partir du moment où j'en parle, les gens m'en parlent naturellement. Donc c'est pas comme un rhume, évidemment, c'est pas un rhume, mais on m'en parle de façon naturelle.
Alors il y a un acteur américain connu, on se souvient de lui dans Retour vers le futur, il était tout jeune, Michael J. Fox, qui est atteint de la maladie de Parkinson, alors lui on peut le dire avec des tremblements très visibles, et il continue sa carrière et il met même son personnage et sa maladie au centre de son jeu, au centre de ses prestations. Pour vous c'est quelque chose aussi de montrer qu'on continue d'être ce que l'on est, on a changé mais on est toujours là.
Oui, c'est un exemple pour nous tous. Effectivement, ce côté autodérision sur lequel il joue est évidemment un encouragement à déclarer la maladie. D'ailleurs, dans son cas, je crois qu'il a déclaré sa maladie après 5 ou 6 ans après le diagnostic. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est quand les symptômes deviennent visibles, on se dit bon, bah maintenant, il vaut mieux que j'en parle.
On vous retrouve, professeur Philippe Damier, neurologue au CHU de Nantes, expert de la maladie de Parkinson, toujours en direct des studios de France Bleu Loire-Océan. Vos patients, quand ils se savent atteints de la maladie, ils arrivent à le communiquer à leur entourage, par exemple professionnel, bien sûr c'est indispensable lorsqu'il faut du temps pour se traiter, ralentir aussi la cadence, mais est-ce que c'est une maladie dont on parle ouvertement ?
Là encore, c'est très variable d'un patient à l'autre, hein. Et puis selon le métier fait, selon la qualité du contrôle qu'on arrive à avoir, les patients vont en parler ou pas dans leur entourage professionnel. Il n'y a pas d'obligation. Hein. Certains qui sont dans une carrière militaire, par exemple, s'ils déclarent la maladie, ils sont tout de suite réformés. Donc moi, j'ai des patients qui ont pu continuer leur carrière longtemps avec un traitement qui permettait de bien contrôler les choses. Après, c'est souvent plus simple quand on est dans une entreprise qui permet d'en parler, d'adapter le poste de travail, avoir des possibilités de télétravail sont parfois des solutions tout à fait intéressantes. Donc là encore, chacun est un peu particulier selon la forme de la maladie, selon l'entreprise, selon le métier effectué, c'est plus ou moins simple de le faire.
Jean-Louis Duflou, auteur de 51 aux éditions Librinova, justement, cette fiction dont les personnages sont directement inspirés de votre expérience, de votre entourage. Votre roman, hein, je l'ai dit, a un ton plutôt léger, facétieux, mais il y a des moments plus graves. Et justement, c'est quand vous parlez de votre entourage. La maladie, je vous cite, contrarie la marche et l'humeur, empêche de dormir, affaiblit la voix, contraint à mal écrire, c'est une souffrance sans répit. Et on sent aussi justement que quand vous parlez de la façon dont votre femme perçoit tout cela, là le ton n'est plus du tout léger.
Oui, il y a évidemment de l'émotion parce que ma femme, elle partage tout. Et donc, c'est quand mon humeur change ou quand j'ai une tendance dépressive, c'est elle qui est en première ligne. Donc évidemment, le rapport est différent de celui que j'ai avec toute autre personne.
De quelle prise en charge bénéficiez-vous aujourd'hui, Jean-Louis Duflou ?
Moi, j'ai, d'un certain point de vue, j'ai effectivement beaucoup de chance. D'abord, je suis suivi par un neurologue. Les médicaments demandent un dosage très précis, donc ce dosage, je l'ai. J'ai la possibilité de voir une psychologue, ce que je fais assez régulièrement. J'ai un kiné qui s'occupe de mon activité physique. Et puis j'ai surtout donc mon entourage, mes enfants, ma famille, mes amis, le monde, enfin mes amis professionnels aussi. Ça fait effectivement beaucoup de choses. Donc ça m'aide énormément.
Alors justement, cette prise en charge, professeur Philippe Damier, on parlait du dosage du médicament. Sur quelle base ce dosage peut-il être modifié ?
Ah ben, il est modifié sur ce que nous explique le patient. Et l'essentiel de la consultation, souvent, va consister à essayer de comprendre une journée type pour savoir
sur les symptômes.
Les périodes de la journée où le patient est plutôt en insuffisance de traitement, les périodes où il est surcorrigé, les périodes où il est bien, et d'utiliser l'ensemble des médicaments qu'on a à notre disposition. Et c'est vrai qu'en France, on a cette chance d'avoir quand même beaucoup de médicaments à notre disposition et d'être très fin dans l'ajustement. Et on ajuste vraiment de façon personnalisée, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de sous-correction, pas trop de surcorrection. Et avec ça, on arrive à des résultats tout à fait spectaculaires. Tellement spectaculaires que si on compare les patients il y a une quinzaine d'années aujourd'hui, alors qu'on n'a pas tellement de médicaments très différents, on a une qualité de contrôle qui s'est améliorée de plus de 50%. Moi, il y avait des patients que je voyais qui avaient des grandes fluctuations, des mouvements anormaux extrêmement intenses, qu'aujourd'hui, on ne voit plus du tout dans nos services de neurologie. Et ça, parce que on fait très attention à ce que nous explique le patient et on dose finement en associant plusieurs molécules. Alors après, il y a potentiellement des effets indésirables aussi avec ces médicaments qui jouent sur le cerveau. Donc, il faut aller pas à pas, milligramme par milligrammes pratiquement pour trouver un juste traitement comme a pu le trouver Jean-Louis.
Alors la chance d'avoir les médicaments, la chance aussi d'avoir les spécialistes, les neurologues, les services compétents. Alors on essaye d'avoir le professeur Youssoupha Maïga au Mali. Je dois dire que pour l'instant on a un petit peu des problèmes avec le téléphone, on espère qu'on va y arriver. Je voulais qu'on parle de certains produits, professeur Philippe Damier. Est-ce qu'il y a justement des produits, des aliments de la vie courante qui ont certaines propriétés pertinentes quand on est atteint de la maladie de Parkinson ?
Alors, au niveau alimentaire, il n'y a pas de chose très particulière, si ce n'est se méfier d'un repas trop riche en protéines, puisqu'il va y avoir une compétition entre les médicaments qu'on donne et les protéines, et du coup ça peut réduire un peu l'absorption du médicament. Non, ce qui est très important, c'est plutôt le maintien d'une activité physique. C'est une maladie où la motricité est perturbée. Donc faire travailler cette motricité, faire travailler la gestuelle, la marche, l'équilibre, tout ça est vraiment important avec l'aide de kinés, de rééducateurs et de pratique régulière d'un sport ou d'une activité physique dans laquelle il y a du plaisir. Et maintient aussi du lien social. C'est une maladie qui donne tendance, à cause du manque de dopamine cérébrale, à avoir envie de se replier sur soi. Et il faut essayer de lutter contre ça. Et là, l'entourage peut être utile pour pousser un petit peu le patient à dire « mais non, il faut sortir ». Et puis, il y a tout ce travail. Et je crois qu'un livre comme 51 et d'autres livres sur la maladie, ou ce que fait Michael J. Fox aux États-Unis, permet de changer le regard sur la maladie, fait qu'elle soit mieux acceptée dans la société en général. Et ça, c'est important aussi, parce que ces maladies neurodégénératives sont de plus en plus fréquentes et il faut que la société les accepte. On ne peut pas les mettre de côté et les cacher.
On est là pour ça. Personnellement, Jean-Louis Duflou, vous avez testé quoi, justement, pour améliorer votre qualité de vie? Est-ce que vous avez changé des choses dans votre alimentation? Vous parliez tout à l'heure de ces douleurs que vous avez connues en jouant au tennis. Vous avez continué le tennis ou vous avez arrêté?
Non, le tennis est déconseillé parce que c'est des efforts trop, trop violents. Donc, par contre, ce que je fais, c'est du vélo, ce qu'on appelle le vélo elliptique, c'est-à-dire qui permet de faire des mouvements asymétriques à la fois des jambes et des bras. Donc ça, c'est effectivement important. Et sur le plan de l'alimentation, j'évite évidemment tout ce qui est viande rouge, enfin tout ce qui est trop protéiné, ce qui vient d'être dit.
Et du café? Pas trop de café, non?
Pas trop de café, oui, effectivement.
Non, j'ai diminué le café. Ça, c'est pas forcément quelque chose... parce qu'on lit souvent sur ce genre de pathologies complexes, un petit peu tout et n'importe quoi, avec des aliments recommandés, des choses miracles. On se rend compte que les miracles...
Oui, on lit tout.
Voilà.
La patate douce, les myrtilles...
C'est ça, voilà.
Bon, bref.
En même temps, c'est bon la patate douce, mais je suis pas sûre que ça marche. En tout cas, il y a peut-être pas de contre-indication.
Mais se méfier en tout cas des miracles, oui.
Oui.
Généralement, il y a souvent de façon sous-jacente des gens qui cherchent à gagner de l'argent sur la détresse des autres.
Voilà, mais un gratin de patates douces n'a jamais fait de mal à personne.
Ça n'a jamais fait de mal à personne,
voilà.
Tout à fait.
Alors, il y a aussi des spécialistes, d'autres... oui, comme par exemple les kinésithérapeutes, c'est quelque chose, là, par contre, de très important dans la prise en charge. Essentiel. Professeur Philippe Damier, vous travaillez justement avec des équipes de kinésithérapeutes ou les gens vont vers le secteur libéral? Comment ça se passe?
Oui, alors ça reste encore difficile. On essaie d'identifier des kinésithérapeutes référents qui ont eu des formations spécifiques. On a bien sûr dans le service des kinésithérapeutes qui connaissent bien la maladie. Il y a aussi des centres de rééducation avec des équipes kinésithérapeutes, orthophonistes qui connaissent bien la maladie. Et on commence à avoir des bons niveaux de preuve d'efficacité. Nos collègues hollandais ont par exemple comparé des patients qui avaient une kinésithérapie spécialisée vers la maladie de Parkinson versus des patients qui avaient une kinésithérapie plus standard et montré un avantage à avoir une kinésithérapie spécialisée. Et c'est vrai qu'au niveau des régions, on essaie d'identifier progressivement des spécialistes qui connaissent la maladie, qui s'y intéressent et qui peuvent aider le patient de façon plus approprié, et ça donne des résultats.
Et du côté professeur Philippe Damier, des interventions chirurgicales, notamment la stimulation cérébrale profonde, dans quel cas ce recours est-il préconisé ?
Alors c'est dans des formes bien particulières de maladies, bon, déjà des maladies qui pour lesquelles le traitement médicamenteux ne donne plus satisfaction, puisque le risque chirurgical existe et comparé à un effet indésirable de médicaments, ça n'a rien à voir. Donc quand le traitement médicamenteux donne moins d'efficacité, ça peut être considéré. Et puis surtout, il faut s'assurer que le résultat de cette chirurgie, qui est une chirurgie lourde, hein, il faut rentrer des électrodes dans le cerveau, donnera suffisamment de résultats bénéfiques au patient sans lui faire courir de risques trop importants pour que ça vaille la peine de lui proposer cette chose agressive avec un risque opératoire. Et ça, au global, ça va représenter 5-10% maximum des patients, plutôt des patients qui ont débuté tôt une maladie de Parkinson, hein, qui ont débuté avant une quarantaine, cinquantaine, qui après quelques années voient la réponse au traitement varier dans la journée, commencent à devenir gênés par ça. Et là, on peut voir si la prise de risque qui est raisonnable, si on peut en attendre un bon résultat. Et une fois qu'on est à ce stade-là, on propose au patient, et s'il est partant, on peut y aller.
Professeur Philippe Damier, Jean-Louis Duflou, vous restez avec nous. Hein. On part, heureusement, pour le Mali.
Priorité santé sur RFI.
Bamako, où on vous retrouve, professeur Youssoufa Maïga, bonjour. Professeur Maïga, est-ce que vous êtes avec nous ?
Bonjour.
Ah, on est très content de vous avoir, c'était difficile. Vous êtes chef de service de neurologie au CHU Gabriel Touré. Alors, est-ce que vous avez, professeur Maïga, des chiffres au sujet du nombre de personnes concernées, atteintes de la maladie de Parkinson dans votre pays, le Mali ?
Permettez-moi très vite de remercier mon maître que vous avez avec vous, le professeur Damier, chez qui j'ai passé des années à étudier sur cette maladie. Et à travers lui, toute l'équipe nantaise qui m'a accueilli plusieurs années, où nous avons travaillé, entre autres, sur la maladie de Parkinson et d'autres pathologies. Et je le remercie aussi parce qu'il avait été à Bamako, où il avait vu les malades parkinsoniens, où les étudiants et les malades ont pu bénéficier de son expertise. Et donc, pour parler de la maladie de Parkinson, effectivement, c'est environ 2% de l'ensemble de nos consultations. Donc, c'est une maladie qui n'est pas rare chez nous.
Quelle prise en charge est-ce que vous proposez aux patients, professeur Youssoufa Maïga ?
Un peu sur le plan clinique, c'est à peu près la même chose qu'on peut voir en Europe. Nous avons à peu près plusieurs profils de patients. Nous avons des patients qui vont venir spontanément nous voir pour des signes moteurs, comme j'ai écouté l'émission. C'est vraiment, moi, je dirais le lettré qui est gêné à écrire, qui est gêné dans ses mouvements quotidiens. C'est l'enseignant, l'ouvrier qui n'arrive pas à avoir des gestes précis. Donc, quand c'est ce cas, nous voyons les patients relativement tôt. Sinon, quand c'est des patients non lettrés, c'est vraiment des patients qui vont nous voir vraiment à des stades assez évolués de la maladie, où c'est vraiment des patients un peu handicapés. Maintenant, sur le plan de médicamenteux, nous avons les molécules qu'il faut. Mais bon, ce qu'on disait tout de suite à l'émission, j'ai écouté l'auditrice gabonaise, c'est qu'au début, vu l'attitude de cette maladie dans ses manifestations, c'est quelqu'un qui va être là ou qui va avoir des problèmes non moteurs, l'humeur, le sommeil. Donc, les gens ne vont pas spontanément voir le médecin. Et quand ils voient le médecin, il y a une grâce au niveau périphérique avant qu'ils n'arrivent aux neurologues, qui sont rares en Afrique quand même, ça reste quelque chose de rare. Donc, mais quand ils arrivent à nous, les patients sont pris en charge. Et à l'état d'évoluer, il faut faire vraiment comme le professeur Damien le disait, des doses fractionnées. Et ça va être difficile parce que la notion du temps et la notion de maladie chronique, même dans notre culture, n'est pas quelque chose qui est admis un peu partout, mais encore moins en Afrique. Donc, ce qui pose vraiment des problèmes dans la prise en charge de ces patients, d'admettre qu'il s'agit d'une maladie chronique avec laquelle il faut vivre, avec laquelle il faut faire le reste de sa vie. Et ça, c'est difficile à faire admettre aux malades dans notre société, dans notre contexte.
Merci beaucoup, professeur Youssoupha Maïga. Je rappelle que vous êtes chef de service de neurologie au CHU Gabriel Touré à Bamako, au Mali. Vous êtes aussi le secrétaire général de la Ligue malienne contre l'épilepsie. Professeur Philippe Damien, on vous retrouve en direct de Nantes. Et cette question sur la recherche, quels espoirs, quelles pistes pour de nouvelles thérapies? On parle notamment d'immunothérapie, si je ne me trompe pas trop.
Oui, tout à fait. On a un essai actuellement qui est en cours, qui fait un petit peu de bruit en ce moment dans les médias. On sait que dans le cerveau des patients, il y a une accumulation anormale d'une protéine particulière qui s'appelle l'alpha-synucléine. Et il y a un protocole, mais bon, on est au début de la recherche. C'est appliqué sur un petit nombre de patients en tout début de maladie, qui vise à faire l'équivalent de vaccin pour éliminer cette protéine anormalement déposée. Donc c'est une étude qui va prendre encore quelques années avant qu'on ait des résultats et voir si, un, déjà c'est pas dangereux d'avoir cette approche. Pour le moment, on peut dire que tout se passe plutôt bien et voir si on a une certaine efficacité sur la vitesse d'évolution de la maladie. Mais c'est vrai que si ce traitement est efficace, c'est un espoir assez conséquent, puisque ça freinera vraiment le développement de la maladie. Ça évitera qu'avec le temps, elle ait tendance à diffuser à d'autres zones du cerveau et qui donnent des symptômes qu'on a un peu plus de mal à corriger aujourd'hui.
Rapidement, pour conclure, professeur Philippe Damy, pour revenir à la perception de la maladie, est-ce que le jugement de la société, d'après votre expérience, a changé au sujet de la maladie de Parkinson ?
Il commence à changer un petit peu, et c'est bien, et c'est vrai que le thème cette année de l'association France Parkinson autour de la journée et du mois autour de la maladie, c'est changer le regard sur la maladie. Je crois que c'est très important pour les patients, c'est être accepté dans la société, c'est quelque chose de majeur.
Alors 51, c'est le titre de votre livre, Jean-Louis Duflo. Aujourd'hui, sans être indiscrète, on peut dire que cette année en passée, on est passé à 58. On a évoqué les changements sur votre physique, l'impact sur le moral, cette arme de la dérision dont vous usez dans votre livre. Mais après cette expérience avec la maladie que vous rebaptisez Old Hubert dans votre livre Vieux Hubert, comment est-ce que vous jugez la cohabitation avec cet Hubert assez indésirable ?
Comment je juge la cohabitation ? Ben c'est le ménage à trois, donc on essaye de lui faire la plus petite place possible, mais il a tendance à vouloir s'imposer de temps en temps, voilà. Et donc c'est aussi pour ça que je choisis de la couverture de mon livre, par exemple, c'est une femme qui sourit, parce que c'est ma façon de lutter contre l'humeur.
Et vous arrivez, vous, au quotidien, quand vous sentez, par exemple, l'humeur changer, vous arrivez à contenir cela ou c'est quelque chose qui vous dépasse ?
Ben, ça me dépasse un peu, hein. Donc le seul point, c'est qu'il faut que je me force et que je rentre volontairement dans l'idée d'être actif et de ne pas me replier. Voilà.
Ça veut dire que la motivation, ça reste quelque chose d'absolument essentiel.
Ah, je pense, hein, oui, c'est absolu.
Merci beaucoup, hein, merci beaucoup. On remercie nos invités à Nantes, le professeur Philippe Damier, neurologue au CHU de Nantes, expert de la maladie de Parkinson et des maladies apparentées, accueilli par nos confrères de France Bleu Loire-Océan. On les remercie bien sûr pour leur hospitalité. Merci beaucoup à vous, Jean-Louis Duflo, auteur de 51, publié aux éditions LibriNova. Je l'ai dit, hein, ça parle de la maladie de Parkinson, mais ce n'est pas triste du tout. Ça, on peut dire même, c'est assez étonnant. On lit un livre sur une maladie et ça détend, ça se lit tout seul. Voilà. Bah, merci beaucoup à vous, Jean-Louis Duflo, d'avoir été notre invité ce matin dans Priorité Santé.
Merci.
Sport et santé, on en parle tout de suite avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. On va revenir sur cette annonce de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui a attiré l'attention sur des risques potentiels pour la santé quand on consomme certains compléments alimentaires spécifiquement destinés aux sportifs. Alors, docteur Sen, est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont ces risques ?
Absolument, Caroline. Alors, l'ANSES, donc, en fait, a mis en place un dispositif national de nutri-vigilance pour surveiller finalement les effets indésirables des compléments alimentaires. Et il y a eu plusieurs signalements qui étaient liés à ces consommation de compléments alimentaires destinés aux sportifs. Alors le but, c'est développer la masse musculaire ou diminuer la masse grasse. Et majoritairement, on a vu des effets indésirables d'ordre cardiovasculaire, par exemple des troubles du rythme ou des accidents vasculaires cérébraux. Hein, on a vu aussi des troubles psychiques, anxieux ou des troubles de l'humeur type dépression qui sont apparus. Et c'est pour ça que l'ANSES, du coup, déconseille fortement la consommation de ces compléments alimentaires chez certaines personnes, par exemple ceux qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire ou qui souffrent de maladies cardiaques ou qui ont une altération de leur fonction rénale ou du foie ou des troubles psychiques. Il les conseille également chez les enfants et les adolescents. Et puis enfin, il le déconseille chez les femmes enceintes et qui allaitent.
Alors, des recommandations globales, mais aussi des recommandations qui s'adressent spécifiquement au monde du sport.
Et effectivement, parce que on sait que les compléments alimentaires, par exemple, qui contiennent de la caféine, eh bien, peuvent donner des troubles du sommeil, par exemple chez l'enfant et l'adolescent. Alors, il y a plusieurs compléments alimentaires, quelquefois, qui sont associés parfois même à des médicaments. Et là, on dit que ça peut entraîner des retards de perception de la fatigue, ça peut donner de véritables interactions médicamenteuses. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut essayer de le signaler à son médecin et à son pharmacien. Alors, faut savoir qu'il existe une norme pour les compléments alimentaires destinés aux sportifs. Alors, ça porte un nom un peu particulier. En France, en tout cas, la norme AFNOR NFV94001. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, qui sert à justement déterminer les compléments qui sont, on va dire, sans risque, en tout cas, faits dans des bonnes conditions. Et puis, il y a une étude qui a été intéressante, d'ailleurs, qui a été faite par l'Agence mondiale antidopage en 2015, et qui montrait que 40 à 70% des athlètes de haut niveau utilisent des compléments alimentaires. Donc, c'est extrêmement important, c'est la majorité, et que 10 à 15% des compléments alimentaires qui sont disponibles pour ces athlètes contiennent des substances interdites. Alors ça, c'est absolument sidérant.
Docteur Jean-Marc Sen, on a compris des conseils qui s'adressent aux sportifs et forcément, ces recommandations, elles sont également à l'attention de ceux qui encadrent les sportifs.
Et absolument, Caroline, il faut savoir que le recours aux compléments alimentaires doit être absolument discuté toujours. Ça doit être une approche pluridisciplinaire entre, bien sûr, les cadres sportifs qui peuvent proposer ces compléments alimentaires et puis les professionnels de santé qui sont présents. Il faut aussi certainement donner des informations envers le jeune public, les jeunes sportifs, pour bien leur expliquer l'intérêt ou les inconvénients de ces compléments alimentaires et ne pas banaliser. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'ANSES s'interroge sur le fait qu'il y a des distributions de ce genre de produits sur les sites sportifs. Ah, et puis enfin, l'ANSES dit aux professionnels de santé, n'oubliez pas de déclarer auprès du dispositif de nutri-vigilance tous les compléments, tous les effets secondaires qui pourraient être liés à la prise des compléments alimentaires. Donc il faut quand même rappeler finalement que une bonne alimentation quotidienne et un entraînement adapté doit normalement suffire à atteindre un objectif sportif, pour peu que celui-ci soit raisonnable.
Raisonnable, oui. Pour tout savoir, ce rapport complet de l'ANSES, on le trouve sur le site de l'agence. Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Demain, nous parlerons des intervenants à l'hôpital, artistes, bénévoles. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance. Du lundi.